de Dieu et je vous invite à faire une lecture dans le livre de Josué au chapitre 1er et au verset 1er également. Livre de Josué, chapitre 1er et le verset 1er. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Voilà, alors on fait un petit rappel des circonstances dans lesquelles ces paroles ont été prononcées par le Seigneur. Le peuple d'Israël, donc, est sorti d'Égypte sous la conduite de Moïse, après l'intervention de l'Éternel pour les délivrer, puis ils ont traversé le désert du Sinaï, et maintenant, eh bien, le peuple s'apprête à entrer dans le pays promis, où il connaîtra, selon ce que Dieu a dit, la victoire sur ses ennemis, et aussi il connaîtra l'abondance de la bénédiction, puisque ce pays était un pays où coulait le lait et le miel. Nous dirions, nous, peut-être un pays de cocagne, hein, un pays d'abondance. Ils vont passer le Jourdain qui délimite la frontière. C'est donc une nouvelle étape qui s'inaugure pour le peuple d'Israël. Et c'est dans ce cadre-là, c'est dans ce contexte-là que Josué reçoit des instructions précises. Josué, le successeur de Moïse, reçoit des instructions précises de la part de Dieu qui lui présente quelles sont ou quelles seront les conditions pour connaître le succès, pour connaître la faveur de Dieu, pour connaître la réussite et la bénédiction. Conditions, eh bien, qui consistent à devoir agir fidèlement, à observer, à mettre en pratique la parole de Dieu. Et j'attire particulièrement votre attention, c'est ça, vous voyez, qui m'a personnellement interpellé, sur ce verset 7, où, parlant de la loi, parlant de sa loi, parlant de sa parole, le Seigneur dira, ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche. D'autres traductions, d'autres versions disent, ne t'en écarte, ce qui est la même chose, ni à droite, ni à gauche. Alors je dirais, voyez-vous, frères et sœurs, que nous sommes d'une certaine manière dans une position semblable au peuple d'Israël. Nous allons nous franchir, non pas le Jourdain, mais nous sommes passés de 2016 en 2017. C'est aussi un passage. Et nous allons, d'une certaine manière, nous engager ainsi au cours de cette nouvelle année. Et il en va de même chaque année que Dieu fait, dans une nouvelle étape. Et pour connaître la victoire, parce que le Seigneur veut nous donner la victoire, alléluia, Je rappelle cependant qu'il n'y a pas de victoire sans combat. Pour connaître la victoire et pour connaître la bénédiction, les conditions sont pour nous les mêmes que ce qu'elles étaient pour Josué et le peuple d'Israël, à savoir l'obéissance à la parole de Dieu, la fidélité, la constance, le respect entier, total, l'observation scrupuleuse et rigoureuse des ordres du Seigneur, de sa parole. Ne s'en détourner, ne s'en écarter, n'en dévier ni à droite ni à gauche. En plus, le Seigneur nous dit que le chemin est étroit et resserré. Donc, voyez-vous, la marge de manœuvre, elle est faible. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ni à droite, ni à gauche. Eh bien, ça veut dire qu'il faut rester dans une situation, dans une attitude, dans une position équilibrée. Voilà. La vie chrétienne authentique, la vie chrétienne qui plaît à Dieu, eh bien, consiste à mener une existence qui, à tous égards, et notamment sur le plan spirituel, est équilibrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas insister exagérément sur une vérité biblique au détriment d'une autre. Vous voyez? Parce que la parole de Dieu, elle est toujours parfaitement équilibrée. Si nous exagérons, on va prendre un exemple précis pour illuminer votre lanterne. Si nous exagérons à outrance sur un point de la doctrine chrétienne ou un autre, eh bien nous allons faire ce que la parole de Dieu nous dit de ne pas faire. Nous allons aller au-delà de ce qui est écrit et nous allons tordre le sens des Écritures. Et c'est souvent ce que font les faux prophètes, c'est souvent ce que font, n'est-ce pas, les gens qui enseignent des vérités qui ne sont pas des vérités bibliques. Ils prennent un point de la doctrine chrétienne et ils l'exagèrent à l'extrême de telle sorte qu'ils tombent dans le déséquilibre. Alors, par exemple, la parole de Dieu enseigne deux vérités qui ne sont pas contradictoires, mais qui sont complémentaires. Et il nous faut les considérer l'une et l'autre. D'une part, la parole de Dieu nous enseigne la pleine suffisance de la grâce de Dieu. Amen. Pleine suffisance de la grâce de Dieu qui assure notre maintien dans le salut. Oui, je peux avoir l'assurance. Oui, je peux avoir la certitude d'être rendu capable de demeurer dans une foi vivante et agissante pour obtenir ce qui m'a été promis, la vie éternelle. Je peux être sûr qu'avec la grâce de Dieu, je saurai, la grâce de Dieu, je pourrai rester fidèle à mon Dieu jusqu'au bout, par sa grâce. Je sais qu'ainsi, je peux compter sur sa grâce toute puissante. Le Seigneur l'a promis. Alléluia. Dans l'évangile de Jean, par exemple, au chapitre 10, vous savez, c'est ce passage où Jésus se définit comme étant le bon berger. Et voici ce que notre Seigneur nous dit d'une manière précise, d'une manière formelle, au verset 27, il dira ceci: « Mes brebis entendent ma voix. » C'est nous, ces brebis. Mon frère, ma sœur, tu es une brebis du Seigneur. C'est peut-être pas très flatteur quand le Seigneur nous appelle des brebis, parce qu'une brebis, c'est pas tellement futé, vous voyez, c'est pas tellement intelligent, et c'est plein de faiblesses. Mais ça nous va comme un gant. Parce que même si, eh bien, vous avez un cerveau, comme disait quelqu'un, à 3 étages, une réflexion cérébrale particulièrement poussée, sur le plan spirituel, nous sommes pas très malins, pas très futés, nous les hommes, et nous nous égarons facilement. Et puis nous sommes pétris de faiblesse, c'est pas vrai? C'est vrai sur le plan physique, mais c'est vrai aussi sur le plan moral, c'est vrai sur le plan spirituel. Il en faut si peu pour qu'un homme ou une femme soit complètement démoli. Alors nous sommes les brebis du Seigneur. Et Jésus dit, voici, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et le meilleur c'est maintenant, et personne ne les ravira de ma main. Amen. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Voilà, nous sommes dans la main du Seigneur, protégés, bien gardés, préservés, entourés de sa grâce protectrice, et ainsi assurés de pouvoir, par lui et en lui, aller jusqu'au bout. Alléluia. Jusqu'au bout, lui rester fidèle. Alors, on pourrait multiplier les passages. Je vais simplement en citer un autre, si vous voulez bien, dans l'Épître aux Romains. Ce sont, ma foi, des passages bien connus, mais il est bon de se les remémorer. Et voici ce qui est dit, Romains chapitre 8, verset 28. On va se payer le luxe de lire tout le passage, parce que ça en vaut la peine. Romains chapitre 8, verset 28. Il est dit ceci. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, ou destinés d'avance, à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et que ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance. Vous voyez, c'est pas quelque chose de confus, de vague, d'imprécis. Non, j'ai l'assurance, dit l'apôtre Paul, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, les mauvais anges, ni les dominations diaboliques, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et on dit Amen. Voilà. Ainsi, vous voyez, il y a tous ces textes qui nous assurent que le Seigneur est fidèle et que nous ayons sauvé, il saura, par sa grâce, mettre tout en œuvre pour nous maintenir dans le salut et pour que nous puissions ainsi aller jusqu'au bout du chemin. Ça, c'est ce que la parole de Dieu affirme. Mon frère, tu es sauvé, bien sauvé, et le Seigneur va mettre tout en œuvre pour que tu arrives jusqu'au bout du chemin, gloire à Dieu, et que d'étape en étape, à chaque pas, tu puisses lui rester fidèle. Et quand bien même à un moment ou un autre, il y aurait un impair, une glissade, il saura te tendre une main secourable pour te relever, gloire à Dieu, de telle sorte que jamais qui que ce soit, ni quoi que ce soit, ne pourra te séparer de lui. C'est écrit, c'est ce que la parole de Dieu enseigne. Mais, la parole de Dieu enseigne aussi autre chose. Elle enseigne donc, je viens de le dire, que d'une part, nous pouvons avoir une pleine assurance dans la suffisance de la grâce de Dieu qui assure notre maintien dans le salut. Mais la parole de Dieu enseigne aussi qu'à côté de ça, et ce n'est pas contradictoire, j'ai ma responsabilité personnelle. J'ai ma responsabilité personnelle de croyant, responsabilité personnelle que je dois assumer. J'ai le devoir de rester vigilant, ainsi que l'a dit Jésus. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, car L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. J'ai le devoir de rester vigilant, veillant et priant, afin de ne pas être séduit par les ruses du diable, afin de ne pas être de ceux qui se retirent pour se perdre, mais être plutôt de ceux qui persévèrent et qui obtiendront finalement ce qui leur a été promis, la vie éternelle. Voyez, il y a la grâce de Dieu d'un côté, mais moi j'ai ma responsabilité. Et ces deux vérités ne s'excluent pas l'une par rapport à l'autre, elles se complètent. De telle sorte qu'il faut ni privilégier une, ni privilégier l'autre, mais considérer les deux ensemble. Voyez, le Seigneur dans l'évangile de Matthieu, je crois que ce texte a été rappelé hier soir par l'un des prédicateurs, Matthieu chapitre 24, nous dit que parce que l'iniquité se sera accrue, et nous y sommes en plein aujourd'hui, hein, la charité, c'est-à-dire l'amour, l'attachement à Dieu du plus grand nombre de qui? Du plus grand nombre de croyants, se refroidira. Et le Seigneur d'ajouter que ce sont ceux qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés. Cette parole doit nous interpeller. Seigneur, moi je ne veux pas être de ceux dont l'amour, l'attachement à ta personne s'attiédit, se ramollit, n'est-ce pas, diminue d'intensité. Je ne veux pas être de ceux dont la charité se refroidit parce que ils se laissent influencer par les valeurs de ce monde, mais je veux être de ceux qui persévèrent et qui vont jusqu'au bout, n'est-ce pas? Dans l'évangile de Luc aussi au chapitre 21, le Seigneur nous donne des avertissements extrêmement sérieux à prendre en considération. Il dit ceci, Luc 21, verset 34, « Prenez garde !» À qui? Aux autres? Au diable? Non, pas d'abord. À vous-même. Prenez garde à vous-même. Vous savez, c'est une petite parenthèse que j'ouvre. N'ayez pas confiance en vous. Vous êtes votre plus grand ennemi. La Bible dit que celui qui a confiance dans son propre cœur, c'est un insensé. Parce que si nous étions livrés à nous-mêmes, nous sommes capables, vous savez de quoi? Du pire. Parce que le cœur humain, il est désespérément mauvais. C'est pourquoi le Seigneur dit, prenez garde à vous-même. De crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, vous voyez? Le confort, l'aisance, voilà, la facilité, et par les soucis de la vie, et que ce jour, le jour de son retour, ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc, on y revient, et priez en tout temps, afin que vous soyez, que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Quand même important, ça. Dans l'Épître aux Hébreux, je mentionne ça en passant. Hein, il est dit quand même, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Autrement dit, voyez, résumer ce que je viens de dire, le Seigneur ne fera pas tout. Oui, il y a la grâce de Dieu. On vient de le dire précédemment. Oui, on peut avoir l'assurance que le Seigneur va tout mettre en œuvre pour qu'après avoir été sauvés, nous restions sauvés, nous allions jusqu'au bout du chemin. Mais j'ai ma part à faire. Le Seigneur ne fera pas tout. J'ai ma responsabilité personnelle de croyant. Et ces deux vérités, d'une part, la pleine suffisance de la grâce de Dieu, et d'autre part, la responsabilité personnelle du croyant ne sont pas contradictoires, ne sont pas opposées l'une à l'autre, mais elles sont complémentaires. Alors vous avez ceux qui exagèrent ce fait de la pleine suffisance de la grâce de Dieu. Il y a des croyants comme ça qui affirment que une fois qu'on est sauvé, eh bien on sera toujours sauvé. Quoi qu'on fasse, Dieu s'arrangera toujours pour nous faire aller au ciel. C'est faux. La parole de Dieu et la triste expérience de certains croyants démontrent que il y a des gens qui ont perdu leur bonne conscience et qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Vous voyez, ce mot de naufrage, il est évocateur. Hein? Voilà, quand j'étais à Bayonne, là-bas, il y avait des marins dans l'assemblée, alors ils savaient ce que c'était qu'un naufrage. Hein? Avoir échappé à un naufrage. On avait un chrétien, un frère, un ancien marin qui avait vécu ça dans sa carrière professionnelle, un naufrage. Une catastrophe, un naufrage. Un soir de tempête à Bayonne, paraît-il, quelques années avant qu'on y arrive, un cargo a raté l'entrée du port un soir de tempête et il s'est fracassé sur les rochers. Et l'épouse d'un frère qui était policier maritime nous disait que c'était terrible parce qu'on entendait les marins là-bas, qui à quelques dizaines ou centaines de mètres du rivage, hurler de peur parce qu'ils se voyaient mourir en train de se noyer et on ne pouvait pas faire grand-chose pour un naufrage. C'est terrible quand c'est sur le plan humain, matériel. C'est terrible quand on fait naufrage par rapport à la foi parce que la conscience a été cautérisée parce qu'ils ont perdu leur bonne conscience, parce qu'ils ont perdu de vue l'objectif, voyez. Eh bien, ils peuvent pécher impunément sans n'en ressentir aucun dommage, apparemment, aucun remords. Leur cœur s'est endurci. Il y a des gens comme ça, mes amis. Il y a des gens qui ont marché avec Dieu un temps, qui sont arrivés à ce point-là. Je mentionne souvent le cas de cet homme, j'ose pas dire le frère, qui avait eu une bonne période, voilà, il était dans l'église, fidèle, il avait même, je crois, conduit les chants pendant un temps, c'est pas, il servait le Seigneur, il témoignait à des gens de sa connaissance, et puis petit à petit, on l'a vu dégringoler, et puis ça a fini, le foyer et tout, dans une catastrophe. La dernière fois que je l'ai rencontré, je lui ai dit, mais Jean-Claude, c'était son nom, ton âme. Pense à ton âme. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a répondu, tu sais, ça ne m'empêche pas de m'endormir le soir. Waouh! Ça ne m'empêche pas de m'endormir le soir. Le sort de mon âme, c'est ce que ça voulait dire, ne m'intéresse plus. J'en ai rien à faire. Son cœur était devenu dur, sec. Il avait perdu sa bonne conscience et il avait fait naufrage par rapport à la foi. Alors vous voyez, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça, hein? Et dire la grâce de Dieu fera tout. Non, la grâce de Dieu, certes, mais ma responsabilité personnelle. Et ceux qui disent une fois sauvés, toujours sauvés, se trompent lourdement, lourdement. D'autres, au contraire, voyez, insistent exagérément sur l'autre facette de la vérité, c'est-à-dire sur la responsabilité personnelle du croyant, comme si en quelque sorte, tout dépendait du croyant. Voilà. Tout dépendait du croyant. Alors, ces gens-là, vous voyez, sont scrupuleux. Et ils ont raison. Mais à l'extrême. Et ils perdent toute assurance, toute paix intérieure que pourtant le Seigneur a promise à ceux qui se confient en lui. De telle sorte qu'ils vivent dans le doute, la confusion, la crainte permanente de perdre leur salut. C'est une erreur. C'est une erreur. Certes, on vient de le dire, la responsabilité personnelle du croyant existe, mais c'est le Seigneur, avant tout, qui est l'auteur de notre salut. Il nous a élus avant la fondation du monde et il saura nous guider sûrement, si nous nous confions en lui, jusqu'au bout, voyez. C'est lui qui assure notre salut par son œuvre accomplie en notre faveur à la croix et par son intervention souveraine dans notre vie. Il faut donc se maintenir dans la foi, dans sa fidélité et sa bienveillance. L'apôtre Pierre dira ceci, « Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Vous voyez, je vous ai signalé le cas de cet homme qui avait fait naufrage par rapport à la foi, mais je connais le cas inverse. Je me souviens d'une brave chrétienne, parce que c'était une brave chrétienne, je dirais une bonne chrétienne, même si elle n'était pas parfaite. Ça, c'était un Avignon, voyez. Il était facilement troublé, perturbé. Et dès qu'il y avait un appel à la repentance, à venir à Jésus, qu'on adresse prioritairement aux incroyants, aux inconvertis, Elle était déstabilisée, elle ne savait plus où elle était, sauvée, perdue, pas sauvée, pas perdue. Alors après, il fallait que je lui donne un bon coup de manivelle pour lui remonter le moral et que je lui dise, Jeannine, mais enfin, vous appartenez au Seigneur. Il vous a sauvé, restez en paix, restez calme, vous voyez. Voilà. Alors, il faut rester au milieu du chemin. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Ou alors, si vous n'avez pas compris, je recommence à partir du début. Hein? Voilà. Ne déviez ni à droite, ni à gauche. Ne pas privilégier à extrême la grâce de Dieu. Ne pas privilégier à l'extrême la responsabilité personnelle. Mais restez bien cadré, considérez les deux vérités ensemble qui ne s'annulent pas, mais qui se complètent harmonieusement. Il faut donc apprendre ainsi à vivre dans l'équilibre, en nous laissant instruire par tout le conseil de Dieu qui est enseigné dans les Écritures. Il y a d'autres domaines, je les mentionne en passant, sans m'y étendre parce qu'on n'a pas le temps, dans lesquels il faut conserver l'Écriture. Par exemple, l'équilibre entre la foi et les œuvres. On est sauvé par la foi, ok? Éphésiens chapitre 2, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Cela ne vient pas de par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ok. Mais l'apôtre Jacques, dans son épître au chapitre 2, nous dit que la foi sans les œuvres, elle est morte, elle est inutile, elle est stérile. Parce qu'il dit, Jacques, mais tu crois que Dieu existe? Tu fais bien. Hein? Les démons le croient eux aussi, et pour cause. Et ce n'est pas pour ça qu'ils sont sauvés, vous voyez. Alors, il y a la foi, mais il ne faut pas négliger non plus les œuvres qui démontrent la réalité de notre foi. Et ces deux vérités sont également complémentaires. Et il ne faut pas insister trop sur un aspect, ni trop sur un autre, mais rester équilibré pour être dans la norme biblique. Un autre domaine encore, l'équilibre entre le fait d'être conduit par l'Esprit de Dieu et le fait d'être conduit par la parole de Dieu. L'Écriture dit dans Romains 8 que tous ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits, guidés par l'Esprit de Dieu. Eh oui, hein? Le Seigneur a dit dans l'évangile de Jean que l'Esprit, le Consolateur, il nous enseignerait et il nous conduirait dans toute la vérité. Ok? Mais il nous dit le Seigneur aussi que sa parole est là pour nous instruire. Et vous connaissez par cœur ce verset du psaume 119 qui dit « Que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Dans l'évangile de Jean, Jésus dit, n'est-ce pas, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Alors vous avez des gens très spirituels, ils ne veulent être conduits que par l'Esprit, que par l'Esprit, que par l'Esprit. Et ils sombrent parfois dans le déséquilibre le plus absolu. Et d'autres, au contraire, ils sont d'une rigidité. Il n'y a que la parole et les choses de l'esprit ne les intéressent pas. C'est faux, vous voyez, ces deux extrêmes. Il faut rester cadré. J'ai besoin de la parole et j'ai besoin de l'esprit. D'ailleurs, quelqu'un a dit, ce n'est pas dans la Bible, mais ce n'est pas idiot. Hein? Quelqu'un a dit, si vous ne voulez être guidé que par la parole, vous vous dessécherez. Si vous voulez n'être guidé que par l'esprit, vous exploserez. Si vous êtes conduit, au contraire, par la parole et par l'esprit, vous progresserez. Et c'est ce qu'il faut, n'est-ce pas? Donc toujours l'équilibre. Que Dieu nous fasse la grâce d'être ou de devenir des chrétiens parfaitement équilibrés. S'il est un être qui était équilibré, c'est bien le Seigneur Jésus. Hein? Parce que lui, il était au centre de la vérité. Ni à droite, ni à gauche. Alors en terminant, voilà. Hein? Si nous manquons de sagesse, qui n'en manque pas ici? Si vous en avez un stock de trop, dites-moi, je suis preneur. Hein? Si nous manquons de sagesse, et la sagesse consiste entre autres à être équilibré, Eh bien, l'apôtre Jacques nous dit, demandons-là cette sagesse à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle nous sera donnée. Que son nom soit béni. Amen. On prie le Seigneur.